Père, Seigneur, c'est dans le nom de Jésus qu'on est rassemblés. Je te remercie pour le temps qu'on a encouru ce matin dans la louange pour te louer, pour t'adorer et goûter ta présence, Seigneur. Puis maintenant, c'est le temps dans l'étude de ta parole. Je te remercie de ce que tu vas parler à nos cœurs, tu vas nous instruire, tu vas nous fortifier, tu vas solidifier notre fondement qui est bâti sur ta parole. Oui, Seigneur, parle à nos cœurs ce matin pour remettre tout entre tes mains dans le nom de Jésus. Amen. On continue l'étude sur les premiers pas. C'est une série de 10 études qu'on va faire. On est rendu à la leçon 4. Le chrétien et l'Église. Dans cette étude-là, on va comprendre la pensée du Nouveau Testament à propos de l'Église. C'est quoi l'Église? À quoi ça sert l'Église? C'est-tu obligatoire d'aller à l'Église? C'est-tu la volonté de Dieu qui est une Église? Qu'est-ce qu'on retrouve d'une Église? Moi, je crois qu'il est important que les chrétiens d'aujourd'hui s'appuient sur le fondement de la parole de Dieu, puis de comprendre, est-ce que ça fait partie de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament? Est-ce que ça fait partie de la vie d'un chrétien, l'Église? Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements, pas nécessairement des enseignements, mais des commentaires que j'entends sur Internet, puis je vois des gens qui disent, on n'est pas obligé d'aller à l'Église, puis c'est pas important d'aller à l'Église. C'est beau qu'on ait des commentaires, mais qu'est-ce que la Bible dit de l'Église? C'est ça qui est important de savoir. Premièrement, partant, on va regarder qu'est-ce que l'Église. Le mot « Église » dans le Nouveau Testament, c'est formé de deux mots. Ce mot-là, c'est « ecclésis ». C'est pas « ecclésias », c'est « ecclésis ». C'est deux mots. Le mot « ec » veut dire « hors de », puis « clésis », c'est « appel ». Dans le sens original du Nouveau Testament, quand il prononçait le mot « église », il faisait appel à des gens qui sont appelés à sortir hors de. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui étaient dans quelque chose, puis qui ont reçu un appel de sortir hors de. Ça a un grand sens quand on commence à fouiller le sens biblique. Là, on va voir trois sens que le dictionnaire biblique nous donne, là, mais ça revient tout à la même chose. L'Église de Jésus-Christ, qui est de tout temps, décrit l'ensemble de ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans ce premier sens-là, ça nous dit que le mot « Église », ça s'adresse à ceux qui font partie de l'Église de Jésus-Christ, qui sont sortis hors de quelque chose, puis qui forment maintenant l'Église de Jésus-Christ. C'est l'ensemble de tous ces gens-là qui est l'Église. L'ensemble sur toute la terre. Jésus a une Église. On va le voir dans d'autres passages tantôt. Le mot « Église » a aussi comme pour synonyme, dans le sens biblique, « assemblée ». Fait que c'est des gens qui sont sortis hors d'eux, qui sont appelés à sortir hors d'eux, mais ça devient comme un regroupement. Ça représente, dans le sens du mot, un regroupement, une assemblée, une réunion, où ce que les gens sont sortis, mais pour se réunir, pas pour se disperser. C'est sont sortis de quelque chose, sont appelés à sortir de quelque chose pour faire partie de quelque chose d'autre. L'Église biblique est une assemblée de ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur puis qui se trouvent en étroite communion fraternelle. Le mot, quand on l'épluche en cause, une coche de plus, ça dit c'est une assemblée de ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur qui lui dit « Sors de ce monde pécheur, sors, change de vie, joins-toi à mon Église, à mon assemblée, à ma réunion. » Puis on va voir plus loin que ça a même le sens encore plus large, c'est le corps de Jésus. Quel est le premier mandat du Seigneur? Parce que quand le Seigneur il est venu, il a accompli plein d'ouvrages. Puis après ça, il a payé la dette des péchés, il est mort, il est ressuscité, il a apparu à ses disciples. Puis là, il a commencé une œuvre Mais il avait déjà commencé en évangélisant, mais il a commencé une œuvre que c'est la job du Seigneur de le faire. Qu'est-ce qu'on voit dans Matthieu 16, 18? On va voir une job que le Seigneur s'est enligné depuis le début, qui est venu sur la terre, qui s'est enligné à former quelque chose et à continuer à travailler pour ce quelque chose-là. Qu'est-ce qu'on retrouve dans Matthieu 16, 18? Il y a une révélation du plan de Dieu, du plan de Jésus dans ce verset-là. Jésus est en train de parler à Pierre, puis il dit, « Moi, je te dis que sur cette pierre, » là, il venait de dire, Pierre venait de dire, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu béni. » Puis là, Jésus répond, « Sur cette pierre, je bâtirai mon Église, puis les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Qu'est-ce qu'on trouve dans ce verset-là que Jésus a entrepris de faire? Construire quoi? Construire son Église. Dans ce verset-là, ça nous dit que Jésus a commencé une job il y a 2000 ans. Il est en train de bâtir quelque chose. Sa job, parce qu'on le sait que c'est le travail du Saint-Esprit, de convaincre de péché, de justice et de jugement, de donner les révélations que les gens ont besoin pour sortir hors de ce monde, puis former une réunion, une assemblée que Jésus appelle les sorties hors d'eux, ou son Église, dans le mot qu'on l'a traduit en français. Puis dans les autres versions, on va comprendre encore plus qu'est-ce que c'est que l'Église. Jésus a commencé à bâtir son Église, pas ses Églises. Il est en train de travailler à bâtir une Église de gens sortis de ce monde qui forment son Église. Il n'y en a rien qu'une. Elle est universelle. Il n'y a pas 30 églises. Nous autres, dans le monde, on a subdivisé les églises par doctrine. Ah, s'il y en a un qui prêche un peu plus sur le baptême du Saint-Esprit, on va les appeler les assemblées de Dieu ou les pentecôtistes. Les autres, ils caractérisent leurs idées comme, moi j'ai une idée plus baptiste. Là, au gouvernement, ils ont pris des noms. On s'assemblerait que tout est subdivisé. Jésus ne voit pas ça subdivisé. Jésus voit l'ensemble des personnes sauvées comme formant son Église, puis il n'y en a rien qu'une Église. Quand moi, je regarde les frères baptistes, ou les frères ménonites, ou les frères en Christ, ou les pentecôtistes, ou nommez-les, là, tous les noms de ceux qui ont le salut par grâce, par le moyen de la foi, puis qui sont nés de nouveau, ils sont sortis du monde, puis ils forment présentement la seule et unique Église de Dieu sur la terre. Quelle est l'Église? Avez-vous écrit votre réponse? Jésus construit, il bâtit son Église. Quelle est l'Église pour Jésus? Qu'est-ce qu'elle représente? C'est beau que c'est des gens sortis, mais à quoi que ça sert? Qu'est-ce que ça représente? Comment Jésus voit ça aujourd'hui au Nouveau Testament? Éphésiens 5, 23. C'est la deuxième partie de ce verset-là qu'on va regarder. Car le mari est chef de la femme. Mais là, c'est à pas cette partie-là du verset. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Qu'est-ce qu'on retrouve? Comment est-ce que Jésus voit son Église aujourd'hui? Bien, que ça, même dans ce temps-là. Comment Jésus considérait l'Église?
Comme son corps.
Comme son corps. On va réfléchir un peu là-dessus. Moi, vous voyez Daniel Poulain est formé d'une tête, des épaules, des membres. Mais Daniel Poulain, sur la terre, a besoin de tout ça pour pouvoir être représenté. Sinon, si je suis séparé d'un de ces morceaux-là, je suis mort. En général, c'est la tête de ma part. Jésus est le chef de son Église, puis son Église est devenue quoi? Son corps. Présentement, tous ceux qui sont sortis du monde, puis qui ont répondu à l'appel de Jésus, puis qui sont sauvés, sont nés de nouveau, ils ont reçu le Saint-Esprit, par la nouvelle naissance, on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit le pardon des péchés, on reçoit le Saint-Esprit, on se trouve être automatiquement greffé à son corps. Qu'est-ce que ça veut dire, greffé? On est joint, soudé, comme si on fait partie de son corps. Jésus a un seul corps sur la terre, c'est son Église. L'ensemble des croyants sur la terre font partie de son corps. Puis un seul représentant sur la terre, c'est son Église. Mais dans sa diversité, parce que Dieu a donné des dons différents dans chaque partie de son corps pour une fonction bien spécifique, mais c'est l'ensemble de l'Église sur la terre qui est devenu le corps du Seigneur, puis ça, c'est son Église. Et donc, il est le Sauveur. Il faut comprendre que son corps, en partant, on n'était pas de son corps en venant au monde. On a été greffé à son corps lorsqu'on est né de nouveau. On a eu besoin d'être sauvé avant d'être greffé à son corps. Ça nous dit, Christ, il est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le Sauveur. Fait que pour faire partie de ce corps-là, il faut premièrement que tu sois sauvé. Fallait que tu sortes hors d'eux. Fallait que tu reçoives l'appel de sortir hors d'eux, puis tu as répondu à l'appel, à cause de ça, il te pardonne, il te donne son Saint-Esprit, puis tu es maintenant soudé à son corps, puis tu es son représentant sur la terre. Ce que l'Église n'est pas, Romains 16, 5. C'est un petit verset. Mais c'est juste comme pour nous démêler. Parce qu'il y a une pensée populaire aujourd'hui, je m'en vais à l'Église. Tout le monde dans le tête, quand on dit on s'en va à l'Église, on s'en va à Baptiste. Hein? Ouais. Dans Romains 16, 5, ça nous dit saluer aussi l'Église qui est dans leur maison. Voyez-vous, l'Église n'est pas une maison. L'Église est dans la maison. Donc, le fait qu'il y ait des gens sortis hors d'eux, des chrétiens, sont sortis du monde, puis ils se réunissent ensemble, ils deviennent l'Église. C'est un groupe, comme qu'on a vu, ça avait le sens aussi, de assemblée. C'est un groupe, un assemblement de personnes qui sont sorties hors d'eux. C'est pas la bâtisse, l'Église. C'est ceux qui sont en dedans dans la bâtisse qui sont l'Église. Fait que quand on dit « je vais à l'Église » dimanche, on est ici à l'Église présentement. L'Église, c'est pas la bâtisse qu'on voulait. Ça n'a rien à voir. Dieu il a dit « il n'y a pas une bâtisse que vous pourriez bâtir qui serait assez grande pour me contenir. » Ça dit « le ciel est le ciel, voyons, il dit « la terre est son marchepied. » Il dit « quelle maison me bâtirez-vous pour que je puisse y habiter? » Il dit « le trône, le ciel est son trône. » Dieu est au-delà même de l'univers, puis les cieux, des cieux, des cieux ne peuvent le contenir. Il n'y a pas une maison qu'on peut bâtir sur la terre qui peut contenir Dieu. Sauf Dieu a décidé de venir résider dans des gens, puis quand il rentre dans une personne, tu deviens son temple, tu deviens l'Église. Fait que quand je vais à l'Église le dimanche, quand je viens à l'Église, je suis ici pour rencontrer les autres qui font partie du même corps que moi. L'Église, c'est chacun de vous qui est assemblé ici. Ceux qui sont nés de nouveau font partie de son Église, puis je m'en viens vous rencontrer, vous autres. Le lieu n'a rien à voir. Là, ça nous parle qu'il était dans une maison, dans ce verset-là. Saluer l'Église qui est dans leur maison. Ça veut dire que ça peut être dans une maison, ça peut être dans un local loué, ça peut être dans un local acheté. C'est pas la forme du bâtiment qui compte pour représenter l'Église. C'est les gens qui sont à l'intérieur, c'est des gens qui ont sorti hors d'eux, puis ils se rejoignent ensemble pour former une assemblée. Fait que l'Église n'est pas la bâtisse. Ça change, parce que qu'est-ce qui est saint aujourd'hui, c'est pas la bâtisse ou le saint sanctuaire, c'est pas la bâtisse, c'est nous autres, les croyants, qui sommes les saints. Le sanctuaire, c'est la réunion, ce qu'on a d'ensemble dans la présence de Dieu, c'est ça. Ça n'a pas rapport avec la bâtisse. Il faut lâcher comme de vénérer la bâtisse. Moi, quand je connaissais pas Dieu, avant que je sois chrétien puis que je lise la Bible, tout ça. Quand je passais devant une église catholique, je saluais l'église catholique parce que je pensais que Dieu était là, qu'il était là. Que l'église, la bâtisse de l'église, je pensais que Dieu était là, il était là. Fait que je saluais la bâtisse. Je pensais que c'était ça, mais en réalité, c'est une fausseté. La bâtisse n'a rien à voir. C'est pas la bâtisse qui est l'église. C'est le rassemblement des gens sauvés. Où puis-je retrouver les membres de l'Église du Seigneur? Acte 2, 46. On va voir dans ces trois prochains versets-là des endroits différents où ce que c'est appelé une église, peu importe la bâtisse où ce que tu es réuni. Acte 2, 46, ça nous dit, « Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. » Dans ce verset-là, où puis-je retrouver les membres de l'Église du Seigneur? Dans ce verset-là, ça nous dit qu'ils étaient assidus à se réunir ensemble dans le temple. Fait que ça peut être dans une bâtisse qui se fait appeler temple, ou chapelle, ou peu importe, là, mais c'est pas la bâtisse qui fait que c'est l'Église. C'est à cause que le groupe était assemblé ensemble. Mais on voit que Dieu, il n'y a rien contre qu'on se réunisse dans une grosse bâtisse. Puis on va voir d'autres versets qui nous parlent d'autres endroits où ce que les chrétiens se réunissaient, puis c'était appelé des églises. Fait que là, vous pouvez écrire qu'on peut retrouver ça dans un temple. On peut retrouver ça dans Actes 19, 9. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Dans ce verset-là, on voit que les chrétiens pouvaient aussi se réunir dans une école et aller là pour recevoir les enseignements qu'ils ont besoin, mais dans une école. Ça veut dire que Dieu ne fait pas de différence que tu sois réuni dans un temple, que tu sois réuni dans un autre verset, nous parle de synagogue, un autre verset nous parle d'école. Puis le prochain verset va nous parler, dans 1 Corinthiens 16-19, les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison. Vous salue beaucoup dans le Seigneur. Où est-ce qu'était cette église-là? Dans l'église qui est dans leur maison. Les maisons n'étaient pas plus grosses que les maisons qu'on a aujourd'hui, là. Ça n'a pas rapport que... Faudra dire, ah, oh, mais s'il y a plus que 50 personnes, là, ça devient une église. Pas du tout, ça n'a même pas rapport à quantité de personnes. Parce que Jésus a déjà dit, deux ou trois rassemblant mon nom, je suis au milieu de vous. Mais là, il se réunit dans une maison. Et que combien de personnes peuvent être contenues dans une maison? Ça peut être 12, 15, 25, 30, 50 pour une grosse maison. Ça dépend de la grandeur du salon ou de la cave. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important quand on parle d'église puis d'aller à l'église, c'est d'aller au rassemblement des chrétiens. Peu importe le nom mousqueté, ça fait partie de l'église du Seigneur. Puis ce sont des rachetés, puis ils font partie du corps de Jésus. Puis là, je m'en vais les rejoindre, même dans une maison. Dans une maison, dans une synagogue, dans une école... Dans le temple, parce que là, les premiers chrétiens se réunissaient dans le temple. Pour vous donner une idée, le temple, les premiers chrétiens, là, il y a 3 000 qui se sont convertis suite à la prédication à la Pentecôte. Puis, peu de temps après, il était rendu à 5 000. Puis, ils se réunissaient dans le temple parce que le temple était assez grand pour contenir 5 000 personnes dans une réunion. Ça dit qu'ils se réunissaient fidèlement pour aller entendre des enseignements. Ça veut dire que le temple, il pouvait contenir une multitude. Les gens se réunissaient tous les jours. Il devait avoir des allées venues de gens qui allaient dans le temple, qui étaient dans le temple des Juifs, mais là, il était utilisé, il devait avoir des compartiments spéciaux, pas en même temps que les cérémonies des sacrificateurs. J'ai pas d'idée réellement comment c'était bâti et quelles étaient les grandeurs, mais il y avait un local assez grand pour contenir une foule. C'est pour ça qu'ils se réunissaient dans le temple. Puis quand ils sont réunis dans une école, ça devait être probablement qu'il y avait trop de monde pour se réunir dans une maison. Ils sont obligés de prendre un local plus grand. Fait que ça n'a pas rapport avec la bâtisse où on se réunit pour dire que c'est une église. Ça a rapport simplement, c'est un rassemblement de gens sauvés qui est le corps de Christ. On va répondre à une autre question. Pourquoi dois-je aller à l'Église? On va aller lire un verset dans Matthieu 28, les versets 19 et 20. Jésus, il est en train de parler à ses disciples, puis il leur donne une mission, une fonction, une tâche qui doit être faite coûte que coûte. C'est un ordre, c'est un commandement. Puis on a appelé ça la grande commission. C'est comme si c'est l'enlignement que Jésus donne à ses disciples pour former son Église. Jésus veut former son Église à travers ses disciples, puis il lui donne comme une direction. Matthieu 28, 19 nous dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Ça veut dire, en partant, là, il veut qu'on rassemble des gens à sortir hors d'eux pour qu'ils deviennent des disciples. « Les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Qu'est-ce que je peux découvrir dans ce verset-là? À quoi sert l'Église? Pourquoi je devrais aller à l'Église?
Qui connaît?
Afin d'être enseigné. Ça, c'est la deuxième réponse, parce qu'il y en a une en premier.
Devenir un disciple.
Mais quand la personne a dit, je l'ai accepté, Jésus, je suis devenu son disciple, mais pourquoi je devrais aller là? C'est le début. Parce que Jésus a donné un ordre que ça devait être ça. Premièrement, je vais à l'Église parce que Jésus me dit qu'il fallait que j'y aille. Il donne un ordre, là, faisant des disciples, mais enseigne-les. Ça veut dire que moi, si je deviens un disciple, je me convertis, première chose que je dois faire, je dois rechercher à obéir à tout ce qui me prescrit. C'est ça que ça dit à la fin de ce verset-là. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Puis là, dans ce verset-là, il y en a une prescription. Ça dit, faites des disciples et enseignez-leur. La première raison pourquoi je devrais aller à l'Église, ça serait parce que Jésus veut me former. Parce que Jésus me dit qu'il fallait que je sois formé. Puis Jésus me demande d'être obéissant à ses prescriptions. Puis le fait qu'ils me disent « faut que je le sois », ça devient un ordre. On veut obéir au Seigneur, on veut plaire au Seigneur, on veut marcher dans la volonté du Seigneur. Bien, un nouveau converti doit se rejoindre avec d'autres croyants pour aller à un endroit d'assemblement, parce que le mot « église », on a dit que ça voulait dire « assemblée » aussi. Fait que les gens qui se convertissent doivent avoir dans l'intention, dans leur cœur, d'aller se rejoindre avec d'autres croyants afin d'être enseignés et de recevoir les prescriptions. Fait qu'il y a deux réponses dans ce verset-là. Premièrement, parce que c'est le Seigneur qui le dit de le faire. Parce qu'il nous dit « enseignez-leur », ça veut dire qu'une brebis qui se convertit a besoin d'être enseignée. Si elle veut obéir au Seigneur, il faut qu'elle aille se faire enseigner. Tu ne peux pas fonctionner séparément du reste du corps. Qu'est-ce qui m'arrivera si mon corps serait... J'aurais un bras coupé, ça fait partie de mon corps. Je coupe le bras de mon corps, je le mets ailleurs sur une tablette. Qu'est-ce qui va arriver au corps, qu'est-ce qui va arriver à la tablette? Le corps, le bras va cicatriser. Il va continuer à fonctionner, le corps. Mais le bras, lui, qui est là, qu'est-ce qui va y arriver? Ça ne prend pas grand temps que tout, il va se décomposer, puis il va être fini. Il va être inutilisable, sans vie. Il est important pour un membre du corps de rester branché au corps afin de recevoir le sang que quelqu'un va y envoyer, afin de recevoir dans le sang tout ce qui régénère notre système puis qui nous communique la vie, puis d'être connecté au système nerveux et pouvoir fonctionner par les ordres que le cerveau y donne. Parce que tous les messages viennent du cerveau. Puis si un membre du corps se déconnecte, même s'il se dit qu'il veut suivre encore le cerveau, il pense qu'il va encore suivre le cerveau, mais c'est impossible qu'il suive un cerveau sans rester connecté. Puis Jésus nous enseigne dans sa parole, première chose que les disciples doivent faire, rassembler, écouter. Puis quand on entend ce verset-là, est-ce qu'on pense que c'est juste une tâche d'homme? Cette fonction-là, de dire rassembler, faire des nations des disciples, puis des enseigner, c'est-tu rien qu'une fonction d'homme? Dans ce verset-là, il nous donne une réponse que c'est pas juste une fonction d'homme. Quand Jésus dit « Je bâtirai mon Église », ça veut dire que, dans ce verset-là, à la fin du verset 20, ça nous dit quoi? C'est nous qui enseignons, mais est-ce que c'est rien que la job de l'homme? Moi, quand je suis en train de vous expliquer des affaires, est-ce que c'est juste la fonction de l'homme de faire ça?
Tous les jours de notre vie.
Il va être avec nous, ça veut dire que c'est le Seigneur qui a dit qu'il sera avec moi tous les jours. Là, il me dit faire ça, fait que c'est le Seigneur qui va faire ça à travers de moi pour vous rejoindre. Si moi, je suis en contact avec le Seigneur, comme qu'il dit qu'il va être avec moi tous les jours, puis il me demande d'enseigner les disciples. Fait que quand je fais la fonction, il est avec moi, et c'est lui qui bâtit l'Église à travers moi. Parce que je bâtirai mon Église, c'est Jésus qui a dit ça. Il n'y a pas un homme séparé de Jésus qui peut bâtir l'Église du Seigneur. Il travaille pour lui-même, il travaille à son compte s'il est séparé de Jésus. Si une personne est sauvé, fait partie du corps de Jésus. Jésus a dit qu'il sera avec lui à tous les jours. Je fais partie du corps de Jésus, vous faites partie du corps de Jésus, et quand je suis en train de vous enseigner, Jésus est en train de vous enseigner à travers moi afin que vous soyez vous aussi bâtis. Devenez des disciples. On va voir d'autres versets qui parlent dans ce sens-là. Puis que vous allez voir même que Jésus veut vous utiliser pour le ministère. Quelle était la pratique des premiers croyants? Acte 11, 25. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Le titre chrétien, c'est à Antioche que ça a commencé, qui voulait dire suiveur du Christ. On est des chrétiens, on est suiveurs du Christ. Mais ce que je veux venir, quelle était la pratique des premiers croyants? C'est que les gens, donnez-moi des réponses. Ils se réunissaient. Dans quel but? D'être enseigné. Ça dit, ils ont enseigné beaucoup de personnes. Ça veut dire que les gens affluaient dans son lieu de rencontre, dans l'endroit où ils étaient à Antioche. Si on regarde dans les actes, Antioche est devenue une grosse église, puis il y avait des prophètes, il y avait des docteurs, il y avait des évêques. Puis c'est de là, à Antioche, que Paul a reçu l'appel de Dieu et l'imposition des mains pour partir comme devenir un envoyé. Paul et Barnabas, c'est à l'église d'Antioche qu'ils ont commencé leur ministère d'apôtre. Ça veut dire que c'est une église, on ne sait pas quelle grandeur qu'elle avait, mais composée de beaucoup de gens formés, des gens solides, des gens qui étaient matures en Christ, puis qui marchaient dirigés par le Saint-Esprit, puis qu'il y avait des prophéties, il y avait des enseignements, comme qu'on voit dans ce verset-là. Puis des prophéties, ça c'est dans d'autres versets, parce que c'est par prophétie que Paul y a été mis à part. Puis c'est les directions, il recevait les directions du Saint-Esprit. Mais, si je vous pose la question, quelle était la pratique des premiers croyants? Les croyants se réunissaient dans les lieux de rassemblement, qui était l'Église, puis enseignaient. Ils n'ont pas inventé ça. C'est pas eux autres qui ont décidé de faire ça, puis dire, ça c'est les hommes qui ont décidé de faire des regroupements d'Églises, puis d'enseigner. Non! C'est juste pour accomplir l'ordre que Jésus venait de leur donner, l'ordre dans Matthieu 28, que Jésus leur avait dit, « Allez, faites des nations et enseignez-leur. » Mais c'est de même que les disciples avaient compris cet ordre-là du Seigneur. Ils se rassemblaient, soit dans les écoles, soit dans les maisons, soit dans le temple, soit dans les synagogues, puis ils enseignaient la parole de Dieu. Ils restaient ensemble, puis ils enseignaient beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes passaient à recevoir les enseignements des prescriptions de Jésus. Parce qu'il y en a qui pensent que quand tu viens à Jésus, tu as juste besoin de l'accepter, tu es sauvé puis tout est beau. On sera pas comme obligé de pratiquer quelque chose, pensant qu'on est appelé à la liberté, puis à la liberté, ça sous-entend aucun règlement ou aucun ordre ou aucun hein? Ou aucune contrainte, ou aucune prescription qu'on aurait à pratiquer. Non, le corps de Christ, on est rendu, quand on greffe en Jésus, on est sous la loi de Christ. C'est tout un nouveau système que Jésus a instauré, basé sur sa révélation que Jésus a donnée, et basé aussi sur la révélation des apôtres. Parce que ça nous dit dans un autre verset que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Son Église est bâtie sur le fondement des apôtres. C'est pour ça que quand Jésus a appelé Paul, il dit, je te choisis pour être un témoin de tout ce que je t'ai de ce que tu m'as vu là, comme apparition, et de tout ce que je t'enseignerai, de tout ce que je te donnerai comme révélation. Fait que quand Paul, Paul n'a pas juste eu une vision de Jésus. Il y en a eu une là, puis il y en a eu d'autres moments que Jésus lui a enseigné les choses qu'il devrait enseigner. Donc, les révélations que l'apôtre Paul a eues, c'était des révélations que Jésus voulait enseigner son Église, que Jésus enseignait Paul par révélation, puis il révélait ça aux autres. Un des exemples que je peux vous donner de ça, quand on lit souvent à la Sainte Cène, dans Corinthiens, Paul il dit, comme je l'ai reçu du Seigneur, que c'est dans la nuit qu'il fut livré, il prit du pain, puis il le distribua, puis après ça il prit le vin. Mais ça nous dit, comme je l'ai reçu du Seigneur. Mais l'apôtre Paul, il n'était pas là, lui, à Sainte-Cène, quand Jésus est venu, quand Jésus l'a fait avec ses apôtres. L'apôtre Paul n'était pas là. Quand est-ce que Paul a reçu ça du Seigneur, cette pensée-là? Il y a eu des visions, il y a eu des révélations. Jésus a enseigné Paul pour que Paul enseigne aux Corinthiens les principes. Il faut croire que quand un homme parle dans la part de Dieu, en autant que ça reste biblique, là, parce qu'il y a bien d'autres versets qui nous parlent, même si un ange nous apparaît, s'il ne nous annonce pas que ce qui est écrit dans la parole de Dieu, qu'il soit anathème. Il est important que tout ce qu'un personnage enseigne vienne de la parole de Dieu. Mais si une personne est née de nouveau, est sauvée, remplie du Saint-Esprit, puis elle a des révélations que Dieu lui donne de sa parole, puis les transmet, quand vous écoutez ça, il ne faut pas juste dire « Ah, oh, c'est juste ce gars-là, il a le menton croche, puis les oreilles décollées, c'est pas important qu'est-ce qu'il dit. » On regarde à l'homme, à l'apparence. Mais ce n'est pas de même que ça marche. Le Saint-Esprit a décidé de prendre des gens, les remplir de son esprit, leur donner la parole, leur révéler la parole, puis les gens parlent de l'apport de Jésus.
Tu donnes un exemple?
Oui.
Dans 1 Corinthiens 1, verset 10, l'apôtre Paul dit, là, je vais vous dire de quoi Jésus m'a dit de vous dire.
OK.
Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne pas avoir de division parmi vous, et à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. ça.
Fait que...
Par le nom de Jésus, comme Jésus, dans son nom, je viens vous parler.
Oui, exactement. Paul parlait comme dans le nom de Jésus. Puis je vous exhorte dans le nom de Jésus. Fait que les gens qui recevaient ça, ils recevaient ça pas ça comme étant la parole de Paul, mais ils recevaient ça comme étant la parole de Dieu. Puis un autre verset, il dit, que j'ai lu dans l'étude, le chrétien et la Bible, ça dit que les gens avaient reçu la parole non comme étant la parole des hommes, mais comme elle était véritablement la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. Ça, quelque part, c'est vrai que c'est un homme qui rouvre la bouche, mais quand une personne rouvre la bouche pour enseigner des choses qui proviennent de l'Esprit-Saint et de la Bible, c'est comme si Jésus était en train de bâtir son Église présentement. Il veut solidifier son corps, puis il y a même, on va voir d'autres buts un peu plus loin, jusqu'à où que ça peut aller, cette solidification-là. Fait que, quelle était la pratique des premiers chrétiens? Ils se réunissaient, ils recevaient les enseignements, puis ils enseignaient beaucoup de personnes. Puis c'est de même qu'ils se sont fait appeler chrétiens. Un autre verset ici qui nous parle qu'est-ce qui faisait les premiers chrétiens. Actes 2, 41-42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. On a parlé du baptême dans l'étude 5. Mais là, on ne l'a pas encore vu parce qu'on fait l'étude 4, mais on l'a vu parce qu'on l'a fait avant le temps. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 hommes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Tant qu'une personne se convertit à Jésus-Christ, quel devrait être le premier pas qu'elle fait quand elle se convertit? Une fois qu'elle a confessé, là, qu'elle veut se greffer, première chose qu'elle fait? Oui, ça c'est la... T'as pas le choix. Ça c'est comme la première chose, mais c'est pour accomplir la première que... C'est à quoi la première chose qu'ils disent dans ce verset? Ils se sont fait baptiser. Ça veut dire, comment peux-tu te faire baptiser et recevoir les enseignements de Jésus, des apôtres, sans aller te rejoindre avec d'autres croyants? Si le gars il dit, je l'ai accepté Jésus chez nous dans ma chambre. Oui, peut-être, là, gloire à Dieu. Mais là, ça t'amène à quoi? Là? À quoi que ça serait supposé de t'amener? Bien, premièrement, un désir de te conformer à ce que Jésus enseigne. Puis Jésus a ordonné, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quand tu deviens un disciple, tu dois te faire baptiser pour démontrer aux hommes comme qu'est-ce qui s'est produit dans ta nouvelle naissance quand tu as accepté Jésus. C'est un acte d'obéissance, comme pour plaire au Seigneur, comme pour obéir au Seigneur. Tu veux te faire baptiser, puis en même temps, tu veux recevoir ses instructions, ses prescriptions, sa manière de vivre, son mode de vie. Fait que qu'est-ce qu'ils faisaient, les premiers disciples? Ils persévéraient. Ça veut dire, ils ont commencé à se rassembler, puis ils lâchaient pas de se rassembler. Le mot persévérer, ça veut dire quoi? Ils lâchaient pas. Ils se sont joints aux chrétiens, puis ils ont resté dans l'assemblée des chrétiens, avec persévérance. Il y a même eu des épreuves, dans un petit peu plus loin, ça me dit qu'il y a une grosse persécution en Jérusalem. L'Église a été comme divisée, mais les gens continuaient à se rassembler ailleurs, dans les villes et les villages, puis évangélisaient partout où ce qui était, où ce qui passait. Si tu veux rester fort dans le Seigneur, si tu veux grandir dans le Seigneur, tu as besoin de te greffer au corps, puis de recevoir ce que le corps peut te donner. Comme mon bras, il a besoin de rester à mon corps pour recevoir le sang, puis l'électricité qui vient du cerveau, puis les commandements qui viennent du cerveau, pour pouvoir fonctionner dans tout ce qu'il est supposé de faire. Mais être chrétien, c'est la même chose. Tu ne peux pas être chrétien, puis décider de rester chez vous, puis dire, c'est correct. Tu es en train de désobéir à l'ordre du Seigneur, puis pas rien qu'à un ordre, à plusieurs ordres qu'on va revoir dans la parole. Fait que les gens persévéraient, Puis il persévérait à quoi? À recevoir des enseignements. Il faut que tu sois nourri spirituellement. Il faut que tu apprennes à connaître c'est quoi la vie de Dieu. Parce que quand on vient à Jésus, avant de venir à Jésus, on était étranger de la vie de Dieu. On ne connaissait pas c'était quoi la vie de Dieu. Mais quand tu deviens chrétien, tu as besoin d'être renouvelé dans ton intelligence pour que tu discernes la volonté de Dieu. Tu as besoin que Dieu fasse le ménage, un lavage de tes pensées pour changer ta pensée. Un renouvellement d'intelligence, c'est ça. Il veut te renouveler. Enlever les mauvaises pensées, puis mettre les pensées qui sont de la volonté de Dieu, afin que tu discernes ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Pour arriver à ça, il faut que tu te greffes au croyant qui est le corps, le seul corps. Puis il faut que tu le dis, tu le confesses, que tu ne peux pas fonctionner sans le corps. Il faut que tu te joignes à une église locale, à quelque part, un regroupement de chrétiens, puis que tu reçoives les enseignements. Puis il n'y a pas un que l'enseignement qui persévérait. La communion fraternelle, c'est quelque chose d'important qu'entre frères et sœurs, qu'on puisse parler ensemble, s'encourager. Manger ensemble, parce qu'il y a la fraction du pain, il y a les prières, prier ensemble, se partager ensemble, manger ensemble, vivre ensemble, apprendre à se connaître, puis à s'encourager les uns les autres, à persévérer, parce qu'on est le même corps. Puis on a tous été rachetés par le même Sauveur, c'est Jésus. Il n'y a pas une personne plus haute que l'autre dans ça, puis on va loin un petit peu plus loin. Qui a établi le leadership de l'Église? Qui a décidé que dans l'Église, qu'il y aurait des personnes comme en autorité ou des personnes qui sont comme responsables? Qui a décidé que ça se passe comme ça? Acte 20, 28. Prenez donc garde à vous-même. Le Paul est en train de parler à un rassemblement d'anciens qui étaient sur le bord, comme le bord de la plage, mettons, qui sont en train de jaser ensemble. Ils les avaient rassemblés, comme pour une dernière fois, pour leur parler d'un dernier message, parce que Paul savait qu'il s'en allait, puis qu'il peut-être qu'il ne reverrait plus. Il leur a donné des recommandations. Puis là, Paul lui dit, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. » Il dit, prenez garde à vous-même et prenez garde au troupeau que le Saint-Esprit vous a établi évêque. Évêque, ça peut être dire berger ou responsable. Pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. L'Église du Seigneur, là, l'Église qui est ici, appartient au Seigneur. Elle n'appartient pas à Clermont, elle n'appartient pas à Daniel Poulain, elle n'appartient à aucun de nous. On a été rachetés tous ensemble. Elle appartient au Seigneur. On est tous égaux. Des êtres sortis hors d'eux, puis on fait partie du corps de Christ, puis on n'est pas le corps de Daniel ou le corps de Clermont, on est le corps de Jésus ici présentement. On représente Jésus. Mais le Saint-Esprit il a établi des personnes comme des personnes pour paître l'Église. Paître, ça veut dire nourrir. C'est un troupeau de moutons, tu les amènes paître l'herbe. Fait que, il nous emmène, un berger normalement amène ses moutons parce qu'il y a de la belle herbe fraîche, la belle herbe verte, qui va lui donner toutes les vitamines qu'ils ont besoin, puis là, ils vont brouter. Mais c'est le berger qui est conduit. Les brebis doivent suivre le troupeau. Mais dans un sens, on est comme des brebis. Et le Seigneur y établit, le Saint-Esprit a établi des gens responsables de certains groupes. Comme ici, on est un petit groupe, il y a des responsables. C'est pas un responsable, mais des fois, c'est supposé être des responsables, on va loin un petit peu plus loin. Parce que c'est un conseil d'anciens. Toutes les églises sont formées de conseils d'anciens. Puis, il y en a un autre groupe à une autre ville, puis il y en a deux, trois groupes dans une ville, mais il y a toujours des gens qui sont capables de nourrir, puis de les brebis, puis d'en prendre soin, puis de les visiter, puis de les encourager, puis de leur enseigner ce que Jésus nous a prescrit. Fait qu'on voit dans ce verset-là, c'est qui a établi le leadership Moi, c'est un mot que j'aime pas bien, bien parce que ça a l'air comme un leader, c'est comme si on voudrait dire qu'on est le directeur ou le... C'est comme si ça élève une personne, mais moi, ça, leadership, c'est parce que c'est, ça sous-entend aussi comme une hiérarchie, ça sous-entend qu'il y a comme des tâches différentes, mais il y a un responsable, un dirigeant ou des dirigeants, c'est comme si ça peut être un dirigeant en groupe, mais cette idée-là qu'il y ait des responsables sur d'autres groupes, sur d'autres personnes, c'est le Saint-Esprit qui a établi ça. Puis si on s'oppose à ça, on est en train de s'opposer à l'ordre que le Saint-Esprit a donné dans l'Église. Un autre verset dans 1 Pierre 5, il y en a qui n'est pas écrit, mais je l'ai rajouté. Il fait partie de ce même ordre d'idées. 1 Pierre 5, verset 2. C'est Pierre, là c'est dans ce verset-là qu'on venait de lire, c'était Paul qui a dit ça. Là, c'est Pierre qui répète quelque chose. On voit que c'est la même pensée. 1 Pierre 5, 2. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. C'est-à-dire, nourrissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non parce que vous êtes obligés, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui a établi des gens, que des gens, ces gens-là, devaient nourrir le troupeau de qui? Le troupeau de Dieu. L'Église appartient à Dieu. Ils sont comme des responsables placés là, et là, ils sont même exhortés dans ce verset-là, ces responsables-là, à faire ça comme volontairement, pas pour chercher à faire... Tu sais, il y en a qui sont avide d'argent. Tu vois, t'entends des prédicateurs des États-Unis, là, ça te parle. Le Seigneur me met à cœur, vous allez tous me faire un chèque de 150$ chaque. Vous n'avez pas d'argent, faites-les par la foi. Il est en train de dévorer les brebis du Seigneur. Il est en train de saigner à blanc ses brebis, même s'ils n'ont pas d'argent. Il les oblige de donner. C'est pas avec un gain sordide qu'on doit être animé. C'est avec un don de soi-même, d'une manière volontaire qu'on fait ces choses-là. Je dis pas qu'un ouvrier doit pas avoir de salaire. Si une église est capable de se payer qu'il y ait un ouvrier ou des ouvriers à plein temps, payés par l'église, c'est correct. Parce qu'il y a d'autres versets qui nous disent que le Seigneur a dit que l'ouvrier mérite son salaire, puis que Paul lui-même a dit qu'il aurait dû être... nourri par vous, en parlant de l'Église de Corinthiens, mais il s'en était abstenu, comme pour lui c'est un sujet de fierté d'avoir fonctionné dans l'œuvre du Seigneur sans avoir reçu subsistance de cette Église-là. Mais dans d'autres cas, ça dit qu'il avait reçu une subsistance de certaines Églises puis qu'il était dans l'abondance. Fait que ça arrive des moments dans les actes que les pasteurs, les ouvriers, les missionnaires, les apôtres, appelez-les comme vous voulez, ont reçu un salaire. Ont reçu des montants pour les aider dans leur ministère, mais ça arrivait d'autres fois qu'ils n'avaient pas. Mais il faut le faire de manière volontaire, non obligée.
Quand on étudie le mot gain sordide aussi, ça dépasse le côté monétaire, dans le sens qu'un homme ferait ça par gloire personnelle, pour savoir du prestige,
oui.
et tout recevoir ça pour lui, et non pour...
Oui, parce qu'il y a comme un orgueil que l'homme peut avoir, puis il en prend comme une nourriture de vanter son ego par ce qu'il est en train de faire. Puis c'est vrai, des fois, il y en a qui ont des ministères, il y a 10 000 personnes devant lui qui l'écoutent. Ça prend pas grand-chose pour que l'ennemi vienne essouffler. As-tu vu comment tu parles bien? Juste une petite pensée. S'il rejette pas ça, là, il se fait emporter dans le vent de l'orgueil. Puis là, il va tomber sur le jugement du diable. C'est pour ça même qu'il y a un verset qui dit que pour être dans le ministère, il ne faut pas que ce soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sur le jugement du diable. Ça veut dire qu'une personne doit le faire humblement, pas pour rechercher une satisfaction personnelle ou pour le faire pour acquérir des gains, mais le faire avec dévouement. Puis l'autre au verset 3 qui est bon aussi, « Non comme dominant sur ceux qui sont échus en partage ». C'est comme, si le groupe est là, c'est Dieu qui a partagé ce groupe-là pour qu'on nous en soit ici. Puis c'est Dieu qui a fait qu'il y ait un groupe qui s'est allé au plan. C'est Dieu qui fait l'œuvre. Puis lui est établi sur le groupe, mais pas pour les dominer. C'est pas pour faire sa volonté, puis commencer à être dur, même parce qu'il y a eu des églises où le pasteur, c'est moins le pasteur, et c'est tard, 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 puis tout marche carré comme que lui, il décide. C'est pas dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est qu'il doit faire sa job avec comme d'une manière retirée, puis le faire avec dévouement, mais le faire comme étant un modèle dans le troupeau. C'est ça qu'il faut développer. Des fois, on peut être bien bon en parole, mais en action, comment est-ce qu'on peut être en action? Mais dans l'Église, dont on revient à l'idée, pourquoi je devrais me joindre à une Église? C'est pour aller rejoindre c'est le groupement de personnes qui sont là pour être nourries spirituellement par Dieu. Puis Dieu a établi des personnes dans l'Église pour être capable de leur donner ce qu'ils ont besoin pour grandir. Ça fait une place comme pour s'épanouir. Puis ça, on va le voir dans un autre verset plus loin. Quelle est l'exhortation de l'auteur de la lettre aux Hébreux, en Hébreux 10, 25? N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ça veut dire quoi? N'abandonnez pas votre assemblée. Ça, c'est comme si on reçoit un ordre. T'es chrétien, t'es un enfant de Dieu, tu dois aller dans une assemblée, mais abandonne pas. Ça peut arriver qu'on change d'assemblée. Ça peut arriver que le Saint-Esprit, il réorganise ses troupes, il y a des tâches différentes à faire, des choses à faire, mais le faire pour dire, moi, je ne vais plus à l'église, je reste chez nous. Je vais faire mon affaire. Il dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns. C'est pas d'hier. C'est pas rien que d'aujourd'hui, puis c'est pas rien que d'hier que le monde abandonne les églises. Il y a des statistiques qui se font dans le monde, là, présentement, là. Puis il y aura seulement, à peu près, mettons, 10% des chrétiens qui vont dans une église. 10% de ceux qui se disent chrétiens qui vont dans les églises. Fait que ils disent qu'on est dans les statistiques qu'on sera la moitié de 1% des gens du Québec qui sont sauvés. Même pas 1% du Québec sera sauvé. Puis là-dessus, il y en a à peu près 10% qui vont à l'église. Mais cette idée-là d'abandonner les églises, parce qu'ils voient l'église seulement qu'avec des yeux charnels, puis ils ont sûrement vécu des souffrances ou des mécontentements, puis ils ont entendu des choses, ils ont vu des choses qu'ils n'aimaient pas, puis ils ont décidé d'abandonner l'église, puis ils disent c'est rien qu'un œuvre de la chair. Ils n'ont pas su reconnaître la voix de l'esprit qui était là, ils n'ont pas su reconnaître les enseignements qui étaient nécessaires. Puis c'est vrai que ça peut arriver que tu vas dans une église, puis que ce soit des choses charnelles qui se passent dans cette église-là, puis que le Saint-Esprit a de l'air à savoir retirer de cette église-là. Ça peut arriver. Mais moi, je vous donner un exemple. Moi, si je vais manger à la pizzeria du coin, puis à un moment donné, j'y vais, puis la pizza est pas mangeable. Elle est frette, puis la viande, c'est la viande avariée, puis le fromage goûte le moisi. Même si je serais déçu au bout par mon repas, est-ce que je vais faire une grève de la faim pour le reste de ma vie à cause de ça? Je ferai pas une grève de la faim pour le reste de ma vie à cause qu'une fois j'ai trouvé une pizza pas bonne dans un restaurant. Je peux changer de restaurant, mais je continue à manger. Ça peut arriver que tu vois des choses que c'est inacceptable dans une église. Ça veut pas dire qu'à partir de ce moment-là, faut que tu restes chez vous, puis que tu t'abstiens d'aller dans une église pour le reste de tes jours. Continue, pareil, à aller dans un rassemblement. Si tu vas pas dans cette église-là, va dans l'autre. Mais continue à rester greffé au corps de Christ, parce que le Saint-Esprit veut encore te parler, puis Dieu a choisi des personnes dans l'église pour parler aux autres. Ça fait partie de son plan. Il faut rester connecté au corps. Que retrouve-t-on à l'Église? 1 Corinthiens 12, 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Ça nous dit que tous ces personnages-là, là, c'est des dons, hein, c'est des gens donnés par Dieu, que ce soit des apôtres, des prophètes, des docteurs, ou des gens qui ont des dons spéciaux de miracles, des paroles prophétiques, des discernements d'esprit, des dons de guérison, nommez-les tous les dons spirituels, puis nomme aussi tous les dons d'enseignement, comme dans l'autre verset, dans Éphésiens 4, 11. Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. C'est Dieu qui a donné ces gens-là à son Église. Dieu, le Saint-Esprit, Jésus, a bâti ces personnes-là pour que ces personnes-là deviennent matures et être capables de s'occuper de d'autres personnes. Ça fait partie de son plan. Vous voulez recevoir les enseignements? Vous voulez être encouragé? Allez à l'Église. Restez greffé au corps de Christ. Dieu a déjà tout mis en place dans son Église, les dons nécessaires pour la croissance de cette Église-là. Puis, advenant le cas qu'il manquerait un don dans une Église, mettons qu'on n'aurait pas tous les dons qui sont écrits là. Ça peut arriver qu'il y a des Églises qui n'ont pas de musiciens, il y a juste un pasteur qui fait les enseignements, puis toutes les autres, c'est des jeunes brebis qui sont pas encore assez fortifiés dans le Seigneur, des jeunes, des nouvelles brebis qui n'ont pas encore eu le temps de laisser développer leur talent. Ça peut arriver que ça soit une Église comme une jeune Église, puis qu'il n'y ait pas tous les dons. Mais c'est pas grave, c'est l'Église pareille du Seigneur. Puis allez-y pour recevoir ce que le Saint-Esprit veut vous donner pour que vous soyez vous-même quelqu'un qui grandit, puis utilisé par le Seigneur pour rejoindre les autres frères et sœurs, puis être capable de s'exhorter réciproquement. Éphésiens 4, 12. Que retrouve-t-on? Il y a, verset 4, 11, ça dit qu'il a donné les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Puis le 4, 12, il dit, ça sert à perfectionner les saints. Les dons qu'il a donné Jésus de ces ministères-là, ça sert à perfectionner les saints. Quand vous allez à l'Église, c'est pour vous perfectionner. C'est arrivé une fois dans une lettre qui a dit, vous vous réunissez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire, parce que dans cette Église-là, il y avait du désordre. Puis à chaque fois qu'ils se réunissaient, ils devenaient de pire en pire, au lieu de devenir de mieux en mieux. Mais normalement, quand tu es dans une Église, tu te fais perfectionner par le Saint-Esprit. Dieu te perfectionne. Dieu modifie les choses dans ta pensée. Il te change, puis il veut te perfectionner, puis t'amener à où? En vue de l'œuvre du ministère. Il veut te perfectionner en vue de l'œuvre. Ça veut dire qu'un jour, Dieu veut se servir de chacun de vous ici dans l'Église. Il veut vous perfectionner, il a donné ces dons-là, puis il veut vous perfectionner pour vous utiliser. Chacun de nous autres, on peut être utilisé. Moi, quand j'ai accepté le Seigneur, je prêchais pas la parole, mais il venait un temps qu'à force de m'enseigner, puis de me montrer comment ça marche, puis de me révéler sa pensée, j'ai compris qu'il me donnait ce don-là, puis j'ai commencé à le faire. Mais tu commences pas en commençant comme étant un disciple accompli. Tu commences au bas de l'échelle, puis là, le Saint-Esprit perfectionne pour t'amener à ce que tu sois dans le ministère, puis que tu serves à l'édification de son corps. Il veut que toi aussi, tu travailles à édifier les autres. Puis il dit, on a un but, il faut arriver tout à l'unité de la foi puis de la connaissance de Jésus. Il faut arriver à être des hommes faits. Il faut arriver à être à la stature parfaite de Christ. Ça veut dire tout notre perfectionnement, là, il veut que chacun de vous, vous soyez rendu à un point comme Jésus était. Loin du péché, séparé des pécheurs, vivant dans une sanctification, homme de prière, homme qui parlait de la parole à tous ceux qui passaient. Jésus, c'était ça, là. Jésus est un exemple en tout point. Puis c'est le but que l'Église, pourquoi que l'Église est là, pour que chacun de vous, vous deveniez des personnes comme Jésus, des hommes faits à la stature de Christ. C'est d'ouvrage à faire.
En passant, juste une petite parenthèse comme ça. Et si vous, la semaine prochaine, c'est dans le message.
Ah, vois-tu? Le Seigneur parle. Éphésiens 5, 27. Dans ce verset-là, on voit encore comme une continuité de ce qu'on va retrouver à l'Église. Il dit, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ça, c'est sans reproche. Même pour être quelqu'un qui veut être appelé dans le ministère, il faut qu'il soit irréprochable. Mais c'est à ça que le Saint-Esprit veut nous amener, chacun de nous, qu'on devienne à la stature de Jésus, irréprochable, sans reproche, sans tache ni ride ni rien de semblable, sans aucun défaut. Ça, c'est le but. Je ne dis pas qu'on va l'atteindre à 100%, mais c'est le but à atteindre. Puis c'est le but que le Saint-Esprit veut faire. C'est le but que Jésus veut faire dans son Église, amener chaque croyant à devenir comme ça. Il a commencé un œuvre, là, 2000 ans, en mourant sur la croix. Puis là, à cause de son sang versé, on a été racheté, puis on a été sanctifié. Fait qu'en théorie, là, en principe, on est des saints. Mais dans notre conduite, on ne l'est pas encore. On a besoin qu'il fasse le ménage dans nos pensées, puis qu'il nous amène à le devenir dans nos actions, pour qu'on devienne irrépréhensible dans nos actions. Fait que c'est ça que le travail du Seigneur dans l'Église. Puis si je décide de ne pas y aller à l'Église, je suis en train de me priver du moyen que Dieu voulait m'amener dans une sanctification, mais je suis en train de me priver du moyen qu'il avait choisi de me travailler pour y arriver. Dernière partie, on va faire ça vite. Que puis-je apporter à l'Église? Parce qu'il y en a qui disent, « Oh, ben moi, je vais à l'Église, puis ça a l'air que tous les postes sont pris, puis il n'y a pas de place où je peux m'impliquer. » 1 Corinthiens 14, 12. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. Qu'est-ce que ça nous dit dans ce verset-là que je peux apporter à l'Église?
Chercher tout faire pour développer.
Développer les dons spirituels. Y a-t-il quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi les dons spirituels? Parlant en langue, ça en est un. L'interprétation des langues, ça en est un. Parole de connaissance, parole de sagesse, prophétie, discernement des esprits, don de guérison, don des miracles. Dans l'Église, là, le Saint-Esprit veut agir puissamment. Il veut pas juste que ce soit l'homme qui agit avec des paroles. Il veut aussi agir avec puissance. Puis il veut manifester sa présence dans le corps. Ça veut dire, si vous vous demandez quoi, qu'est-ce que je peux faire pour l'Église où je suis réuni, pour le rassemblement que je suis réuni. Mais il dit, cherche à en posséder abondamment de ces dons-là pour édifier le reste de l'Église. Cherche des moyens d'être en contact avec Dieu, puis être à l'écoute de Dieu, puis à chercher à vivre de façon à plaire à Dieu, afin que Dieu t'utilise dans son Église. Puis tu vas avoir une parole, Dieu va t'utiliser, il va te donner une révélation, il va te donner une prière à faire. Ça peut être prier en langue, tu es en train de prier, puis tu es en train d'intercéder pour les saints. Dieu peut t'utiliser dans son Église. Cherche à posséder les dons abondamment. 1 Pierre 4, 10. C'est encore une autre pensée semblable de qu'est-ce que je peux apporter à l'Église. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ça veut dire, normalement, en principe, on est tous des bons dispensateurs. C'est ça qu'il a dit, puisque vous êtes des bons dispensateurs. Ça veut dire que ça peut arriver que des gens qui sont de mauvais dispensateurs. Qu'est-ce qu'un dispensateur? Bien, c'est, moi, je l'imagine, mettons, la boîte qu'il y a dans la chambre de bain avec le savon dedans, je paye ça à clenche, puis le savon coule. C'est un dispensateur qui fait que je reçois le savon dans ma main. Fait que sa job d'un dispensateur, ça sera qu'à chaque fois qu'elle reçoit une pression, qu'il y a du savon qui sort. Un mauvais dispensateur, un dispensateur défectueux, ça sera que tu mets ta main pour recevoir du savon, mais il n'y a aucun savon qui coule. C'est un mauvais dispensateur. J'ai-tu besoin d'un mauvais dispensateur dans la salle de bain quand je viens d'aller aux toilettes? J'ai besoin d'un bon dispensateur. Il faut que je me lave les mains avant de retourner voir le reste des gens qui m'entourent. Donc, un dispensateur, ça a un job spécifique que le Saint-Esprit y a donné. Dans l'Église, on est des dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Dieu a plein de grâces qu'il veut déverser à travers de chacun de nous. Des bénédictions, des grâces et des bénédictions. Il veut nous utiliser, chacun de nous, puis comme de bons dispensateurs, mais mettez au service des autres le don que vous avez reçu. Il n'y a pas juste les dons spirituels, il y a les dons de service, quand on a vu tout à l'heure, des dons de secourir, de gouverner, parce que le don de secourir, c'est un don de service. Quelqu'un qui aime rendre service. Puis ça a le sens du mot compassion, le mot secourir qui est là. Parce que si tu veux secourir quelqu'un et rendre service, c'est parce que tu as de la compassion dans ton cœur pour ceux qui t'entourent. Ça fait partie d'un don de compassion pour aider les autres. C'est un don que Dieu a mis dans son Église pour aider les autres. Fait que si vous avez ce don-là d'être une personne qui a à cœur d'aider, c'est Dieu qui veut vous utiliser. Hein? Oui. Mais chacun de nous, on peut être utilisé comme un dispensateur de la grâce de Dieu. Vous avez des dons que Dieu a mis en vous, puis il veut que ça soit distribué à travers de chacun, puis tout le monde va être béni au bout.
Oui. Si toi, tu ne le fais pas, c'est les autres qui souffrent.
Oui. La personne qui aurait dû être bénie cette fois-là, elle ne sera pas. Ouais. Fait que ça, tu n'as pas accompli ce que Dieu t'avait demandé. Il dit, ta place est là pour ça. C'est pour ça qu'il faut être sensible à ce que les autres vivent dans l'Église. Si on, comme on fait un pot là, avec de la nourriture, puis donner ça à ceux qui en ont besoin, c'est une manière d'aider. Fait que les gens, ils amènent des choses, puis il y a quelqu'un qui va être béni avec ça. Ça, ce n'est une. Puis il y en a plein de petites choses qu'on peut développer comme ça. Puis que l'Église va être encouragée dans tout ça. Puis on va être bénis ensemble, puis on va être heureux de servir le Seigneur. Galates 6:10, on est en cause, ça nous dit encore qu'est-ce qu'on peut apporter à l'Église. Ainsi donc, pendant que j'en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Moi, c'est le petit bout à la fin. Ça dit d'être bon puis de rendre des services à tout le monde, mais surtout envers les frères dans la foi. Si quelqu'un dit, moi, je ne vois pas à l'Église, ça veut dire qu'il est en train de passer à côté de ce qui est dit là. Parce que ça nous dit dans ce verset-là, c'est surtout là que tu devrais être en train de servir, au sein des frères et sœurs. Qu'est-ce que Jésus a dit quand on donne un verre d'eau à un de ses plus petits de ses frères? La récompense, mais c'est quoi le premier point que Jésus nous dit dans ce verset-là? C'est jamais oublié, mais il dit, chaque fois que vous faites ces choses à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Chaque fois que tu es en train de servir, mais envers les chrétiens, les plus petits de mes frères, il dit, c'est à moi que vous êtes en train de le faire. Vous êtes en train de bénir Jésus.
Yes.
Ça soit un verre d'eau, ça soit un service, chaque fois que tu fais de quoi? Faut pas que tu vois, oh non, pas encore, lui, il est donc bien fatigant. Là, on se fait des idées, puis là, on voudrait pas y aller. Oh, lui, il mérite même pas que je fasse de quoi, pourtant, c'est un racheté de Dieu. Mais on parlait des pensées humaines, mais ça, c'est pas les pensées recyclées du Saint-Esprit, c'est pas les pensées renouvelées, c'est la pensée de notre ancienne vie qui était ignorante de la pensée de Dieu. Dieu veut nous amener dans une pensée, serre dans l'Église, au milieu des frères, rends des services, chaque fois que tu fais ça, tu le fais à Jésus. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Pardon? Okay. Éphésiens 3:10, le dernier verset, il y a quelque chose que tout le monde va voir. Surtout, On va vous le lire avant. « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes... » Ça, c'est les anges qui sont là dans les lieux célestes. Que ce soit les anges de Dieu ou les anges démoniaques, là. « Ils connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Dans une façon, on enseigne à eux. Dans notre manière de vivre, si on est à l'écoute de la direction du Saint-Esprit, puis on commence à s'investir envers l'Église, envers les frères dans la foi, puis on commence à vivre en laissant agir le Saint-Esprit, puis à être à l'écoute des dons spirituels, en donnant des paroles qui sont des paroles de Dieu, puis en étant dans le service, puis dans le secours, puis dans le... Dieu, dans sa grande sagesse, a fait il y a un corps sur la terre, puis un immense plan qui est en train de se dérouler. Un plan extrêmement précis. Il va aller chercher chaque brebis qui doit venir dans le bercail, puis il va en faire un disciple. Puis chaque brebis va être utile à travailler dans son corps comme notre propre corps, comment est-ce qu'il est parfait. Comment Dieu crée ça, là, les veines, les nerfs, les muscles, les os, tu bouges ta main, chaque doigt a sa place, chaque doigt a sa fonction. Puis quand tu considères tout ça, là, c'est extrêmement sage, c'est extrêmement grandiose comment Dieu a pensé à tout. Puis même s'il y en a une blessure, ça guérit. C'est fort comment Dieu a tout fait ça. Mais l'Église, c'est la même chose. On est présentement les représentants de Jésus sur la terre. On est son corps. Puis le Saint-Esprit agit à travers de chacun selon sa volonté. Puis il manifeste ses dons, puis il fait un travail. Puis tous les anges dans les lieux célestes sont témoins de la sagesse infiniment variée de Dieu, de sa grandeur, de sa puissance. Puis tout ça va à la fin, quand on va tout revoir ça nous-mêmes, ça va tout servir à dire, « Seigneur, comment c'était grand! » Des fois, même des fois, on se sent abandonné, puis on se sent loin de Dieu, puis on pense que Dieu nous a abandonnés. On ne se pense même plus qu'on est dans le plan de Dieu. Et pourtant, Dieu dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Puis même si tu es en train de vivre un désert, tu es encore en train de servir à glorifier son nom, puis il glorifie son nom dans ta misère, en ce que tu confesses encore que tu crois au Seigneur, puis que tu le bénis dans tout ce que tu es en train de vivre. Puis après ça, il va continuer à t'utiliser dans d'autres choses. Puis à la fin de ta vie, là, quand tu vas considérer l'ensemble de ta vie, tu vas dire, il y avait un plan parfait. Tout ce qui m'est arrivé était dans le meilleur de ce qu'il était pour moi, puis j'aurais pas pu choisir rien pour arriver à faire ou aboutir à ce que lui va m'amener. Commencez-vous à comprendre un peu à quoi que ça sert l'Église et pourquoi je dois rester greffé à son corps? Puis comment est-ce que ça fait partie d'obéir au Seigneur que de se joindre à une assemblée, puis de persévérer à cette assemblée-là. Puis si l'ennemi vient vous mettre des pensées, « Oh ben moi, c'est ici, c'est ça, puis à cause de ça, je quitte, puis j'abandonne tout ça. » Écoutez pas cette pensée-là, ça fait partie d'une tentation du diable, exactement comme une autre tentation, « Couche donc avec cette femme-là qui est en adultère. » Pourquoi qu'on dirait non à la pensée de l'adultère, puis on dirait oui à écouter le diable qui nous dit de quitter carrément toutes les églises? C'est aussi un péché, parce que c'est contraire à sa volonté. C'est aussi grave quitter l'église que de faire adultère, parce que c'est ses ordres. C'est sa pensée, c'est sa volonté, ça fait partie de ses prescriptions. Vous n'aimez pas une église? Priez Dieu, demandez-y qu'il vous montre si vous devez rester là ou joindre une autre église. Mais quittez pas son corps. Ne devenez pas un retranché ou un membre à part. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole, parce que ta parole est vraie. Elle nous enseigne, elle nous édifie, elle nous fortifie, elle consolide ta pensée dans nos pensées. Elle nous amène à penser que le solide assemblage que tu veux qu'on devienne, c'est comme un édifice spirituel, puis chacun de nous, on est comme une pierre pour former cet édifice spirituel. Donne-nous, Seigneur, une vision claire et permanente de rester greffé à ton corps et de continuer à te servir dans ton corps afin que tu sois glorifié dans nos vies. Je te remercie du travail que tu as fait à travers ta parole ce matin. C'est que ton nom soit glorifié éternellement dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.